Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de novembre de PC, jeux, gadgets et le reste. Alors, qu'ai-je au programme pour ce mois-ci ? Eh bien, cette émission sera essentiellement consacrée au monde du jeu vidéo. En effet, fin d'année oblige, tous les éditeurs sortent leurs grosses pointures, ainsi que les éditeurs de consoles qui ont fait des grosses baisses de prix et qui sortent des nouveaux bundles. Il y a énormément d'actualités à ce niveau-là. Par conséquent, le plus gros de la podcast sera dédié. D'abord, ce sera au niveau des news, puisque je vous parlerai un petit peu de l'actualité du jeu vidéo PC avec, comme je l'ai dit, quelques grosses sorties. Ensuite, au niveau du dossier, où, suite aux nombreuses baisses de prix des consoles next-gen, il me semble intéressant de réévaluer leur valeur par rapport au PC en tant que machine de jeu. Ensuite, une petite mauvaise nouvelle si on veut, je suis en vacances pour la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Ça signifie que je ne saurais pas vraiment vous faire un PC jeu gadget et le reste au début du mois de décembre. Donc je verrai, soit l'émission sera publiée un petit peu plus tard, mi-décembre, soit je vous ferai une sorte de mini-dossier que je préenregistrerai à l'avance, ça dépendra un petit peu de ma disponibilité. Donc ne vous étonnez pas si au 1er décembre vous n'avez pas de PC jeu gadget et le reste, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de faire la podcast, c'est simplement que je ne suis pas là. Tant qu'on en est à parler de podcast, j'ai été faire un petit tour sur Podshow pour vous trouver une nouvelle musique d'intro et celle que vous êtes en train d'écouter pour l'instant est Last Battle de l'artiste 2012. Comme d'habitude, je mettrai un lien vers la page Podshow de l'artiste sur la page de la podcast, à savoir www.pcjg.com pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux et qui n'auraient pas encore l'habitude de mon URL. Bon c'est pas tout ça de faire l'intro, mais il faudrait peut-être commencer aussi. Donc, sans plus attendre, voici les news.
Vous vouliez du nouveau ? Voilà les news.
Alors, on va passer assez rapidement sur les news non-jeux vidéo, vu que le thème de la podcast, c'est quand même essentiellement ça, le jeu vidéo. Qu'y a-t-il eu d'intéressant ce mois-ci ? Eh bien, pour tous ceux d'entre vous qui sont des fanatiques de Palm Pilot, il y a eu une relativement mauvaise nouvelle, en ceci que Palm OS, enfin la société qui maintenant fait Palm OS, à savoir de nouveau Palm One, qui s'appelle de nouveau Palm, je sais, c'est une histoire compliquée, avec leur revente, leur division de société, et ainsi de suite. Enfin bon, la société qui s'occupe de Palm OS et des Palm Pilot a annoncé que le nouveau Palm OS qui serait basé sur Linux ne serait pas disponible avant fin 2008. Et oui, ça veut dire que c'est au plus tôt, à la toute fin des années prochaines, que vous pourrez obtenir un appareil Palm OS basé sur ce nouveau operating system qui devrait quand même remplacer le très vieux Palm OS Garnet. Il faut savoir que Garnet, il est sorti il y a tellement d'années que je ne m'en rappelle même plus, mais ça doit bien être 5-6 ans. Et il commence quand même à faire vachement vieux pour un operating system de PDA. Entre-temps, vous allez me dire, tous les PDA sont pratiquement devenus des smartphones, vu que le plus gros marché maintenant pour Palm OS, c'est les Treo. Donc il y a quand même eu beaucoup d'évolutions entre-temps, et il est plus que temps que Palm rattrape un petit peu son retard, parce que d'autres ne vont pas lui en laisser le choix. Quand on regarde des appareils comme l'iPhone ou le nouvel iPod Touch que j'ai pu voir fonctionner, honnêtement, l'interface est à des années-lumière d'avance par rapport à Palm OS. Donc pour l'instant, ils sont en train de se faire complètement bouffer leur marché. Et si jamais ils ne réagissent pas très rapidement, eh bien Palm et Palm OS, ils vont passer de leader du marché à dernier du marché. J'en profite pour clarifier quelques petites choses à propos de l'iPhone et de l'iPod Touch, parce qu'apparemment je me serais un petit peu emmêlé les pinceaux dans ma dernière podcast. L'iPhone, qui n'est pas encore disponible en Europe, essentiellement parce qu'il n'existe pas de modèle qui utilise les réseaux de 3e génération très courants en Europe, est disponible dans des capacités de 4 et 8 Go, tandis que l'iPod Touch est disponible dans des capacités de 8 et 16 Go. Il me semblait que j'avais mélangé les deux, m'a-t-on rapporté. Je tiens donc à clarifier la chose. Je tiens aussi à clarifier que les iPhones ne sont officiellement pas encore distribués en Europe. J'ai cependant pu voir des magasins qui annonçaient la disponibilité d'iPhones. Méfiez-vous quand même que certains des iPhones américains qui auraient été unlockés pourraient présenter des problèmes de compatibilité lorsque l'on met des patchs Apple dessus. En effet, il faut savoir que si aux États-Unis des gens ont réussi à craquer le verrouillage de l'iPhone qui le forçait à être utilisé sur le réseau AT&T, il s'est avéré que ces iPhones craqués risquaient de ne plus fonctionner correctement lorsque Apple envoie des updates de l'operating system de l'iPhone. Par conséquent, méfiez-vous si vous voulez acquérir un iPhone. Soit, si vous voulez quelque chose maintenant, envisagez l'iPod Touch, qui est plus ou moins la même chose, mais sans le téléphone. Ou alors, attendez qu'il arrive officiellement en Europe. Comme ça, vous serez sûr d'avoir quand même quelque chose qui marche. Je tiens en même temps à annoncer que Apple a annoncé justement qu'il allait sortir un SDK, donc un kit de développement pour l'iPhone et l'iPod Touch, début de l'année prochaine, disons. Enfin, la bêta devrait être disponible fin de cette année-ci, mais ça veut dire que l'on devrait commencer à voir des applications third party, comme ils disent, pour l'iPod Touch et l'iPhone à partir de l'année prochaine. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce qu'être limité aux applications de l'iPod Touch et de l'iPhone, même si elles sont vraiment excellentes, c'est quand même un peu limitant. Ensuite, je vais un petit peu vous parler des nouvelles au niveau des jeux vidéo PC, vu que c'était quand même à la base ça un petit peu l'idée de la podcast. Et il y a eu en fait quelques très très grosses et très très belles sorties ce mois-ci. D'abord, on va parler de Team Fortress 2. Alors Team Fortress 2, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un remake avec le Source Engine de Valve d'un, je dirais, jeu de tir FPS multijoueur qui était sorti à la fin des années 90. Et pourquoi est-ce que ce jeu multijoueur était devenu célèbre ? Eh bien, c'est un des tout premiers jeux qui a permis aux gens de choisir une certaine classe lorsque l'on entrait dans le jeu. Donc de choisir d'être un sniper, ou un bombardier, ou un scout, et ainsi de suite. À l'époque, évidemment, c'était assez révolutionnaire. Maintenant, c'est plus ou moins devenu standard dans la plupart des jeux, genre Battlefield, et ainsi de suite. Donc, le jeu est moins révolutionnaire qu'avant, fatalement. Ce que Valve a fait par contre pour relever un petit peu l'intérêt du jeu, c'est qu'ils ont adopté un design très très original, vu que tout ça est en fait très très cartoon, le graphisme est vraiment spécial, et c'est également très abordable pour les nouveaux joueurs. Clairement, c'est un jeu de tir multijoueur fun, ce qui n'est pas si courant, parce que quand on voit des choses genre Battlefield ou Enemy Territory, dont je parlerai un petit peu plus tard, c'est plutôt du genre sérieux. Ici, c'est un petit peu pris à contre-pied et c'est somme toute pas mal du tout. Pour ceux d'entre vous qui vous seraient intéressés dans les produits Valve, je signale également que ce jeu est disponible également comme faisant partie de l'Orange Box, qui est une sorte de compilation que Valve vend pour une cinquantaine d'euros avec Half-Life épisode 1, épisode 2 et encore un ou deux autres petits trucs. Si jamais vous n'avez pas encore Half-Life épisode 1 et épisode 2, ça peut être intéressant. Half-Life Episode 2 est justement une des grosses sorties aussi de ce mois-ci, de chez Valve. C'est pas mal, en gros c'est la continuation de l'épisode 1 de Half-Life 2, qui était lui-même la continuation d'Half-Life 2. Si jamais vous avez aimé, à mon avis vous aimerez toujours. Si par contre vous commencez à en avoir assez des aventures de Gordon, c'est peut-être pas la peine d'investir. On noterait également que le moteur Source reste le même, donc Half-Life étant sorti il y a un certain temps, les graphismes sont encore très bons, mais commencent à être un tout petit peu en retrait par rapport à ce qui est Cutting Edge, ou vraiment toutes les dernières versions des nouveaux jeux qui utilisent des tout nouveaux moteurs. Mais dans l'ensemble, ça reste tout à fait acceptable. Tant que j'en suis à parler d'extension, je tiens à préciser que Neverwinter Night 2 a eu droit à une extension, Mask of the Betrayer. En gros, c'est la même chose que Neverwinter Night 2, mais avec une nouvelle aventure et un petit peu de choses en plus. Si jamais vous aimiez Neverwinter Night 2, vous aimerez probablement l'extension. Si vous ne l'avez pas aimé, par contre, il est très probable que vous n'aimerez pas l'extension non plus. Ensuite, tant qu'on en est à parler de shooter, je tiens à parler du nouveau Quake Wars Enemy Territory. Alors, Enemy Territory, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, certains d'entre vous se rappelleront peut-être qu'il y a quelque temps, il est sorti un jeu qui s'appelait Wolfenstein 3D, qui était en fait un remake de Wolfenstein, mais avec des superbes graphismes 3D. Et les développeurs avaient en fait prévu à l'origine d'avoir un super mode multiplayer qu'ils allaient vendre à part, à savoir Enemy Territory, où la particularité serait que il y aurait deux équipes, et qu'une des équipes devrait accomplir une mission, par exemple s'infiltrer dans un château et aller déminer une bombe, et que l'autre équipe devrait empêcher la première équipe d'accomplir la mission dans un temps donné, donc défendre le château pour qu'il ne puisse pas aller déminer la bombe. Les missions pouvant avoir plusieurs étapes qui doivent être remplies dans l'ordre, par exemple d'abord faire sauter la porte du château pour pouvoir entrer, ensuite se rendre jusqu'à la bombe, ensuite amener un démineur et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est évidemment un peu plus subtil qu'un bête jeu de tir en ligne. Vu qu'ils n'ont jamais su vraiment vendre leur mode multiplayer pour diverses raisons purement commerciales, ils ont décidé de le mettre gratuitement en ligne. Et ça a donné Enemy Territory, qui est devenu un jeu en ligne multijoueur légendaire et gratuit. Alors, maintenant qu'ont-ils fait, ils se sont dit, vu que ça a eu un énorme succès, il est temps de sortir quelque chose d'un peu plus, je dirais, évolué et payant, un peu plus professionnel. Et en fait, vu que c'est ID Software qui possède aussi la licence pour tout le monde de Quake, ils ont décidé de mélanger Quake et Enemy Territory et de faire un Enemy Territory dans le monde de Quake. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui joue les humains, une équipe qui joue les Strog, et qu'en gros, une équipe doit accomplir une mission et l'autre doit l'en empêcher. Alors évidemment, ils ont rajouté toutes les choses modernes, comme la possibilité d'avoir évidemment une classe, plusieurs types de personnages, de piloter des véhicules, des espèces de portails de téléportation et ainsi de suite. Donc c'est vraiment bien fait. Si jamais vous aimez les shooters en ligne qui nécessitent vraiment une bonne coopération au niveau de l'équipe, pas tellement si vous aimez les trucs plutôt solo, ça vaut la peine d'essayer ça. Je suppose qu'il y a des démos disponibles. Vous trouverez ça sur Steam ou évidemment en magasin pour une cinquantaine d'euros. Enfin, la dernière grosse sortie de ce mois-ci, c'est The Witcher, dont je vous avais déjà un petit peu parlé dans un extra-jeu il y a quelques temps. C'est en fait un jeu de rôle pas online, c'est-à-dire un petit peu dans le même genre que Oblivion ou Two Worlds, qui est en fait basé sur l'univers de fantasy d'un écrivain polonais. Et en fait, vous y incarnez le Witcher, c'est-à-dire le héros, une sorte de semi-magicien tueur de monstres et démons, qui aurait perdu la mémoire dans une aventure jeu de rôle. Alors, contrairement un petit peu à Oblivion, ici, le jeu est quand même un peu plus dirigé, en ceci qu'on ne va pas vous lâcher comme ça dans un immense monde. C'est un peu plus, je dirais, basé sur le scénario. Mais le scénario est vraiment très bon. La raison, c'est que l'auteur original des livres a participé de très très près à la réalisation du jeu. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment une histoire et un vrai scénario travaillé. Les graphismes sont pas mal du tout. Par contre, il vaut mieux installer le patch qui vient de sortir, parce qu'au début, on m'a rapporté quelques instabilités, rien de trop grave, mais quand même, il vaut mieux d'abord installer le patch, surtout qu'apparemment, les sauvegardes ne seraient pas compatibles. Ça, c'est un truc qui, quand même, me fait râler. Quand un fabricant de jeux sort son jeu vidéo, puis il se rend compte que tout compte fait, ils se sont embrouillés les pinceaux dans leur scénario et dans leur quête secondaire, c'est surtout avec les jeux de rôle que ça arrive, et qui disent « Oh, on va sortir un patch pour corriger le problème, mais vu qu'on a changé les scénarios, ça ne sera pas compatible avec les sauvegardes que vous avez fait avant. » Clairement, ça ne va pas aider les gens qui ont déjà joué pendant des heures et des heures. C'est un truc qui devrait quand même arrêter, ce truc-là. Two Worlds nous avait fait le coup aussi, si je me rappelle bien, au moment où c'était sorti. C'est une habitude clairement à arrêter. Donc, à part ça, en gros, c'est bien. Surtout maintenant que le patch est sorti et que vous pouvez commencer le jeu avec le patch installé. N'oubliez pas de le télécharger, c'est une centaine de mégas. Le jeu vous en coûtera une cinquantaine d'euros. Et pour ce que c'est pas mal. On nous annonce 80 heures de durée de vie. Ce qui fait quand même moins d'un euro de l'heure. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que si jamais on se focalise sur la quête principale, ça sera quand même nettement moins que ça. Donc, on va compter 1 euro par heure. Allez, ça reste encore raisonnable pour un jeu de rôle. Sur ce, je vais justement continuer avec un dossier sur les jeux vidéo. Vu que nous allons réévaluer un petit peu la valeur du jeu sur PC par rapport aux consoles suite aux nombreuses baisses de prix des consoles next-gen. Sans plus attendre, le dossier.
Apportez-moi le dossier suivant, s'il vous plaît.
Alors, à moins que vous ayez vécu sous un rocher durant le dernier mois ou les deux derniers mois, vous avez probablement entendu parler de la chose. Sony a décidé de baisser dramatiquement le prix de sa PlayStation 3. En effet, celle-ci passe de 600 euros à 400 euros. Ceci est en fait une réponse aux actions de Microsoft qui avait baissé le prix de sa Xbox de modèle avec disque dur de 400 euros à 350 euros. En gros, il se livre une guerre des prix sans merci. Cela veut dire également qu'il convient peut-être de réévaluer la valeur que vous apporte le jeu sur PC par rapport à ce que vous auriez via une console next-gen. En effet, si jamais on y réfléchit, le jeu PC est probablement la plateforme la plus développée de toutes les plateformes de jeux, à part peut-être la PS2, mais bon, c'est vieillissant la PS2. Donc vous allez me dire, mais pourquoi faut-il discuter ? Eh bien, en gros, il faut discuter parce que le jeu sur PC, si jamais c'est très développé, ça reste cher. En effet, faisons le compte, il vous faut quand même un PC au moins de base, avec 1 à 2 GB de RAM, un processeur double cœur. Ça, déjà, à la base, ça va vous revenir à facilement 400-500 €. Ensuite, il vous faut quand même une carte graphique décente, c'est-à-dire une carte graphique milieu de gamme, celle qui vous coûte encore entre, je dirais, 150 et 200 €, si jamais vous voulez avoir quelque chose de correct, bien plus cher si jamais vous voulez le tout haut de gamme. Ça veut dire que un PC, je dirais, pour jouer, va facilement vous revenir dans les 600 €. Il faut compter également à ça le prix pour acheter une licence de Microsoft Windows, si jamais vous n'en avez pas une déjà que vous auriez acheté en magasin ou ainsi de suite. Je tiens à signaler quand même que souvent, si vous achetez un PC avec Windows préinstallé, la licence n'est pas transférable. Donc, il n'est pas question, par exemple, de dire « Ah ben, j'avais acheté un vieux Dell il y a 4-5 ans, je vais m'acheter une machine Blanco et transférer ma licence. » En fait, c'est tout à fait interdit, malheureusement. C'est quelque chose que je n'approuve pas beaucoup de la part de Microsoft, mais bon, d'un autre côté, ils vendent ces licences pas trop chères. Ça veut donc dire que, mine de rien, vous arrivez quand même déjà à une somme légèrement supérieure à ce que coûtait avant une PlayStation 3. Par conséquent, à l'époque, on pouvait se dire que le PC c'était pas encore beaucoup plus cher que d'acheter une console next-gen. Maintenant, avec les baisses de prix, évidemment, c'est autre chose. Mais bon, d'un autre côté, le PC a beaucoup d'avantages. D'abord, de 1, c'est probablement la plateforme qui est la plus évolutive, vu qu'il est tout à fait possible de remplacer une carte graphique, voire dans certains cas rajouter de la mémoire, bien après l'achat initial. Par conséquent, c'est une machine que vous pourrez améliorer beaucoup plus ses performances, tandis qu'une console s'est figée. Ensuite, du point de vue des jeux, vous avez la plus grande ludothèque disponible, vu qu'il y a beaucoup de jeux qui ne voient le jour que sur PC. Même si maintenant il y a pas mal de trucs qui sont aussi adaptés pour Xbox 360. Certains jeux comme The Witcher par exemple ne voient le jour que sur PC. Ensuite, si jamais vous êtes un amateur de jeux massivement multijoueurs, eh bien il est clair que c'est sur PC que vous avez le plus connu, World of Warcraft. Et ensuite, il n'y a pas grand chose en matière de MMO sur les consoles. Je crois que sur Xbox 360, vous avez Final Fantasy 11 et peut-être bien un truc de science-fiction japonais, je ne sais plus exactement lequel, qui était très très passable. Donc vous avez juste le choix entre deux jeux dont un est vraiment pas terrible. Sur PS3, je crois qu'il n'y a rien pour l'instant. Donc si jamais votre but c'est de jouer à des jeux massivement multijoueurs en ligne, c'est clair que c'est le PC la plateforme de choix. Ensuite, si jamais vous achetez beaucoup de jeux, à savoir au moins un jeu à prix plein par mois, le PC peut se révéler une bonne affaire en ceci que les jeux sont moins chers sur PC. En effet, la plupart des compagnies comme Microsoft et Sony qui sortent une console de jeu sponsorisent l'achat de la console, mais forcent les éditeurs de jeux à leur payer une licence pour chaque jeu qui sera accepté sur leur console. Ça signifie que si par exemple un éditeur veut sortir un jeu sur PC et sur Xbox 360, eh bien sur PC ils ne devront rien à personne. Par contre, pour le sortir sur Xbox 360, ils devront payer 5 ou 10 € du prix d'achat à Microsoft pour aider à compenser les frais que Microsoft a eu à lancer la console, vu que quand ils lancent les consoles, elles sont vendues à perte. D'ailleurs, je crois que c'est encore le cas pour la Xbox 360, ou en tout cas, ils ne font certainement pas de bénéfices sur les consoles. Ça signifie que pour chaque jeu console, eh bien vous remboursez 5 à 10 €, plutôt 10 de nos jours, à Microsoft, et que les jeux sont 10 à 15 € plus chers en magasin. Si vous regardez, un jeu PC, c'est généralement entre 45 et 50 €, tandis qu'un jeu Xbox 360, c'est entre 60 et 65 €. C'est clairement une différence. Sur 10 jeux ou 12 jeux, si vous en achetez un par mois, eh bien faites le calcul. 12 x 10 €, ça vous fait quand même encore 120 €. Sur une durée de vie de 2 ou 3 ans, on arrive vite à 2, 3, voire 400 € rien qu'en argent de licence que les éditeurs doivent payer à Microsoft et Sony. Par conséquent, si vous achetez beaucoup, eh bien, il peut être intéressant d'investir un peu plus pour vous acheter un PC avec une carte graphique milieu de gamme que d'acheter une console. Maintenant, un autre inconvénient du PC, c'est que un jeu PC, ben, ça ne s'installe pas toujours très bien, vu qu'il y a de plus en plus, et c'est vraiment à déplorer, des problèmes liés au système anti-copie. Ceci sera évidemment évité si jamais vous pouvez acheter en ligne, c'est-à-dire des téléchargements via Steam par exemple. Maintenant, ceci a l'inconvénient que vous devez évidemment être connecté en ligne pour pouvoir démarrer le jeu. Ce qui peut être un inconvénient si jamais vous n'avez pas une connexion internet fiable, mais qui est par contre très 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 intéressant si jamais vous avez la large bande. Vu que là, ça signifie que vous entrez dans Steam, vous sélectionnez votre jeu et tout est autorisé quasi automatiquement. Vous n'avez pas de problème lié au système anti-copie. L'autre problème un petit peu, c'est que les jeux ne sont pas toujours parfaitement optimisés pour un PC, à savoir que dans le cas d'une console, eh bien les éditeurs savent exactement le hardware sur lequel ça va tourner, donc vous êtes sûr qu'il n'y aura pas ou peu de ralentissement. Tandis qu'avec un jeu PC, ben, vous devrez parfois un petit peu ajuster les options graphiques, un petit peu chipoter avant que ça tourne parfaitement. Il faudra faire un petit peu l'effort d'adapter le jeu à votre hardware. Donc, clairement, le PC est la plateforme qui a la plus grande ludothèque, qui a probablement les meilleurs jeux, qui a les jeux les plus évolués, vu que c'est les MMO, les meilleurs jeux en ligne, et ainsi de suite, qui ne demande qu'un investissement initial et peu d'investissement par après, vu que la plupart du temps, jouer à Battlefield 2 en ligne, par exemple, eh bien c'est gratuit, il n'y a pas de coûts comme ceux qui sont liés à Xbox Live. Mais par contre, c'est la plateforme qui demande le plus gros investissement, aussi bien financier que, je dirais, technique. En effet, d'un, il vous faudra quand même une machine à 600-700 € pour pouvoir jouer, et c'est quand même un minimum. Ensuite, il vous faudra un petit peu chipoter dans les jeux pour pouvoir adapter à votre hardware. Il faudra éventuellement vous battre un petit peu avec des connexions en ligne, avec des systèmes anti-copie. C'est donc un petit peu moins simple. C'est clairement pour moi la plateforme de jeu du passionné de jeux vidéo. Celui qui est prêt à investir du temps mais qui veut quelque chose de bien. En gros, pour moi, le PC reste la catégorie reine. Du moins pour ceux qui veulent le nec plus ultra. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas forcément le nec plus ultra, qui sont des plus petits joueurs, genre celui qui s'achète un jeu une fois tous les 2-3 mois, là par contre, ça devient tout de suite beaucoup plus discutable. En effet, si jamais on fait le compte, une Xbox 360 avec disque dur vous coûte maintenant 350 €. C'est beaucoup moins qu'un PC. Si jamais vous voulez la version sans disque dur, et le disque dur n'est en fait réellement nécessaire que pour quelques jeux comme Final Fantasy, eh bien, il vous en coûtera quelque chose comme 280 €. C'est évidemment beaucoup moins que les 600 à 700 € que vous demandera un PC de jeu. Maintenant, il y a une autre limitation, à savoir que de 1, vous serez limité à votre contrôleur, ce qui n'est pas forcément adapté à tous les jeux. Pour certains, une souris, c'est quand même vachement mieux, et un clavier aussi. Vous serez aussi limité aux accessoires Microsoft, à savoir que si par exemple vous avez besoin d'installer une connexion sans fil pour vous connecter à Xbox Live, eh bien il vous faudra payer 80 € pour un adaptateur sans fil. C'est évidemment beaucoup plus que le prix normal de ce genre d'adaptateur. Même chose si jamais vous voulez acheter par après un disque dur. Un disque dur de 20 Go pour 100 €, c'est des prix dément. Également, si jamais vous voulez jouer en ligne, il vous faudra prendre un abonnement à Xbox Live, à savoir que ça vous coûtera de l'ordre de 20 € pour un trimestre. Cela signifie que la Xbox 360 vous fournit une expérience graphique proche de ce que vous aurez sur un PC, mais vous aurez régulièrement des coûts supplémentaires, que ce soit du Xbox Live, que ce soit pour vos accessoires, que ce soit en licence pour pouvoir sortir un jeu sur le système Xbox, ça va coûter des sous sur le long terme. C'est donc à privilégier pour ceux qui veulent une expérience relativement simple, à savoir ceux qui ne veulent pas forcément jouer en ligne, ceux qui voudraient bien un ou deux jeux PC qui sont aussi sur Xbox 360, comme par exemple Overlord ou Oblivion, mais qui ne veulent pas réellement investir du temps et de l'argent dans un PC de jeu, et qui ne vont pas jouer de journée en journée, parce que si jamais vous devez payer et l'abonnement Xbox Live, et les accessoires, et le réseau sans fil, et le disque dur, ça vous reviendra très rapidement cher. Dans ce cas-là, il vaut mieux investir dans un PC. Le troisième candidat, à savoir la PlayStation 3, est quelque part devenu plus intéressant, mais en même temps moins intéressant. Je m'explique. Au niveau technique, il est clair que pour 400 euros, une PlayStation 3 est très intéressante. Vous avez un processeur Cell qui est quand même quelque chose de très haut de gamme. Vous avez un lecteur Blu-ray. Bon, personnellement, je trouve que HD DVD est plus mûr et mieux que Blu-ray. Mais bon, vous avez quand même un lecteur Blu-ray. Vous avez une technologie quand même fort évoluée vu que vous avez l'accès aux jeux en ligne gratuit. Ils sont en train de développer une sorte d'interface qui ressemblera un petit peu à une version réduite de Second Life et ainsi de suite. Donc vous avez accès à beaucoup de choses out of the box. Le réseau sans fil s'est inclus dans la PlayStation. Donc vous n'avez pas à acheter beaucoup d'add-ons. Si jamais vous voulez installer un clavier et une souris, vous pouvez prendre un clavier et une souris standard USB et les connecter, ça va marcher. Vous avez également un navigateur internet et la possibilité d'installer Linux. En effet, il y a une version de Linux commerciale de chez Yellow Dog qui est vendue pour PlayStation 3. Et je crois qu'il y a une version non officielle d'Ubuntu que vous pouvez également déployer sur la PlayStation 3. Par conséquent, c'est la machine qui a le plus de capacité. Et pour 400 euros, ce serait probablement la machine la plus intéressante à acheter, si ce n'est que pour l'instant, il n'y a que très peu de jeux intéressants qui sont sortis sur la plateforme. En effet, de mon point de vue, il y a Oblivion qui est pas mal, mais bon, ça existe déjà sur PC. Comme jeu exclusif, en jeu de rôle, il y a Folklore qui est apparemment très moyen, Enchanted Arms qui est apparemment très moyen. Vous avez Resistance Fall of Man qui est un bon shooter sans être exceptionnel. Vous avez Motorstorm qui est un bon jeu de course sans être exceptionnel. En gros, vous avez beaucoup de ça, du bon mais pas exceptionnel. Même chose avec Heavenly Sword, c'est un beat'em up qui est bon sans être exceptionnel. En gros, il n'y a rien d'exceptionnel sur les jeux PlayStation 3. C'est un petit peu le problème. La plupart des jeux qui sont vraiment bons sont également disponibles sur d'autres plateformes. Et encore, ces plateformes ont plus de jeux, comme le PC et la Xbox 360, et les trucs exclusifs à la PlayStation 3, en gros, ils sont pas terribles. Le seul truc exclusif qui est quand même un petit peu... qui en jette, je dirais, c'est Eye of Judgment, qui est sorti ce mois-ci. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un jeu de cartes à collectionner, un petit peu dans le même genre que Magic the Gathering. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez une petite caméra que vous connectez à votre PlayStation 3, vous la mettez au-dessus d'un tapis de jeu, vous mettez vos cartes sur le tapis de jeu et vous jouez comme si vous jouiez un petit peu à Magic the Gathering. Et en fait, la caméra lit les cartes que vous jouez et reproduit sur l'écran ce que vous faites. Ça vous permet d'illustrer votre partie de jeu de cartes, à collectionner évidemment, pas votre réussite. Et ensuite, ça vous permet de jouer en ligne, ce qui peut quand même être intéressant. Mais non, comme il vous faut une table, installer le trépied de la caméra, investir dans des cartes à collectionner, parce qu'il n'y a qu'une grosse trentaine de cartes qui sont incluses avec le pack de base, et que le pack de base lui-même vous coûte une centaine d'euros, c'est à réserver pour les gens qui sont fanatiques de ça. En gros, ça va intéresser un assez petit marché. En gros, c'est bien, mais ça intéresse que peu de gens. Donc, je dirais, mon opinion pour l'instant, ce serait... attendez. Si jamais vous voulez quelque chose de haute résolution et que vous êtes un petit joueur, allez pour une Xbox 360. À la limite, si jamais vous avez l'un ou l'autre jeu en ligne qui vous intéresse, vous payerez un abonnement pour quelque chose comme un trimestre ou quelque chose du genre. Et ça sera ça. Si jamais vous êtes le gros joueur, investissez dans un PC. Ce sera probablement la meilleure solution. Maintenant, si vous êtes un geek et que vous voulez absolument du Blu-ray, et que vous avez un réseau sans fil, ce qui est fort probable si vous êtes un geek, vous pouvez envisager la PlayStation 3. Pour 400 euros, vous avez quand même un hardware fort consistant. Mais bon, soyez conscient que vous prenez un risque en ceci, qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de bons jeux qui sont disponibles, et que c'est fort un investissement pour le futur. Je dirais, à moins que vous soyez vraiment passionné par les jeux de cartes à collectionner, ou que vous vouliez absolument avoir SingStar PlayStation 3 quand il sortira pour pouvoir télécharger des clips supplémentaires, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'intérêt à acheter la PlayStation 3. Ça pourrait changer fin de cette année ou début de l'année prochaine si des jeux plus intéressants arrivent, mais pour l'instant, je dirais que l'avenir de la plateforme est un peu plus incertain. Enfin, certains te demanderont probablement pourquoi je n'ai pas parlé de la Wii alors que j'en ai pourtant une. Parce que la Wii est en fait dans une classe à part. C'est un système fort différent à la fois du PC et des autres consoles next-gen. Certains iraient même presque jusqu'à dire que c'est la seule vraie console next-gen, car c'est la seule qui a quelque chose de réellement révolutionnaire. Et pour la plupart des gens, eh bien la Wii serait plutôt un complément ou à un PC, ou à une Xbox 360, ou à une PlayStation 3. Ou alors comme console standalone pour des très petits joueurs ou ceux qui sont plutôt intéressés par des jeux de style familial. Sur ce, eh bien, je termine cette podcast et je vous dis à dans un mois ou à un mois et demi. Et à ciao !